Le psaume 117, vous avez peut-être un titre, moi j'en ai un, les hauts faits de Dieu dans le passé. Je ne sais pas ce que vous avez comme titre, mais vous allez remarquer avec moi que le psaume ne commence pas du tout comme cela. Et bien qu'il soit en trois parties, finalement, il y a deux grandes parties. Hein, la première, vous allez la redécouvrir avec moi, il est question d'une épreuve que Asaph est en train de vivre avec des mots que l'on connaît aussi, hein, on va les décrire ensemble. Et puis, effectivement, dans la deuxième partie du psaume, il est question des hauts faits de Dieu, de sa puissance, de sa majesté. Et on peut s'interroger, mais comment Asaph va-t-il passer d'un moment où il se lamente, où il partage son état, à un moment donné où il loue le Seigneur? Il y aura un point de bascule, et c'est ce qui va nous intéresser ce matin. Alors, on relit le psaume 77. « Ma voix s'élève vers Dieu et je crie. » Ma voix s'élève vers Dieu et il m'écoutera. Quand je suis dans la détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains se tendent vers lui sans se lasser. Je refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite, mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières ouvertes. Je suis troublé, incapable de parler. Je pense aux jours lointains, aux années passées. Je me souviens de mes chants pendant la nuit. Je médite dans mon cœur, mon esprit s'interroge. Le Seigneur me rejettera-t-il pour toujours? Ne se montrera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle définitivement épuisée? Sa parole a-t-elle disparu pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié de faire grâce? A-t-il, dans sa colère, retiré sa compassion? Je me dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la main droite du Très-Haut n'est plus la même. Je me rappelle la manière d'agir de l'Éternel. Oui, je veux me souvenir de tes miracles passés. Je réfléchis à toute ton activité. Je veux méditer tes hauts faits. Ô Dieu, tes voix sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu? Tu es le Dieu qui fait des miracles. Tu as fait connaître ta puissance parmi les peuples. Par ton bras, tu as racheté ton peuple, les descendants de Jacob et de Joseph. L'eau t'a vu, ô Dieu. L'eau t'a vu, elle a tremblé. Les abîmes ont été ébranlés. Les nuages ont déversé des torrents d'eau et des flèches ont volé de tous côtés. Ton tonnerre a éclaté le tourbillon. Les éclairs ont illuminé le monde. La terre a été ébranlée, elle a tremblé. Tu as fait ton chemin dans la mer, ton sentier au fond de l'eau. Personne n'a reconnu tes traces. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par l'intermédiaire de Moïse et Aaron. Amen. Alors effectivement, la première partie de ce psaume ne correspond pas du tout au titre, en tout cas que moi j'ai, je ne sais pas si vous en avez un autre, mais il n'est pas question dans la première partie de ce psaume des hauts faits de Dieu dans le passé. Il est question au contraire de ce que vit Asaph dans sa réalité, dans son épreuve. On ne connaît pas l'épreuve, on ne connaît pas sa nature, mais il y a des mots certainement qui nous parlent. Il est question d'insomnie. Je ne sais pas si je vous parle ce matin, hein, des nuits on ne dort pas parce que ça cogite à l'intérieur, parce qu'on est mal même dans notre corps et notre corps nous fait souffrir. Il est question d'abattement. Asaph, il est abattu, voire dépressif. Hein, ce sont des mots là aussi peut-être qu'on peut connaître et n'ayons pas honte, même parfois en tant que croyant. On peut là aussi être dans l'abattement, on peut être dans l'insomnie. Il est question de nostalgie. Ah, c'était mieux avant. C'était mieux au début de ma conversion, c'était mieux il y a quelques années de cela. Maintenant, il semble que la nostalgie, des interrogations, voire même des remises en question. On sent que Asaph n'ose pas aller trop loin, mais sa bonté est-elle définitivement épuisée? Voilà. Est-ce que Dieu encore m'a-t-il oublié de faire grâce? Il y a un questionnement. Ce n'est pas une révolte. Mais simplement, dans le cœur d'Asaph, eh bien, c'est réalité. Et puis, il termine par une proclamation élogieuse de la puissance de Dieu. Ça, c'est la deuxième partie du psaume, hein, même si peut-être pour vous aussi, il y a trois moments. Et on se dit, mais que se passe-t-il? Comment Asaph passe-t-il de cette reconnaissance de la puissance de Dieu? Eh bien, je crois que le verset 13 va nous aider ce matin à aller un peu plus loin avec le Seigneur. Voilà ce que Asaph va proclamer à un moment donné. Il va dire, je réfléchis à toute ton activité et je veux méditer tes hauts faits. J'ai intitulé le thème de ce message « Réfléchir pour fléchir ». Réfléchir dans la petite tête pour fléchir les genoux devant Dieu. Et je dis en cela que le témoignage de Jérémie est une belle introduction parce que dans ces moments justement de baptême, d'engagement, la Bible nous dit que le baptême c'est l'engagement d'une bonne conscience. Et notre conscience, on verra tout à l'heure, eh bien, nous aide à réfléchir. On va savoir ce que ça veut dire réfléchir réellement. Et lorsque nous réfléchissons comme Asaph, à un moment donné, eh bien, cette réflexion va nous pousser à fléchir les genoux devant Dieu. De ce que cette réflexion ne soit pas pour nous comme une condamnation, mais à un moment donné où on va fléchir alors notre volonté, nos pensées, mais fléchir aussi notre corps, nos genoux devant le Seigneur. Réfléchir pour fléchir. Ce matin, c'est ce que le Seigneur veut nous aider, nous qui traversons certainement des moments d'épreuve. Et nous voulons aussi le confesser. Mais on va voir tout cela ensemble pendant quelques instants. Réfléchir. Alors, que signifie réfléchir? Eh bien, le sens premier va faire appel à vos expériences de physique. Vous avez tous, un jour ou l'autre, pris un petit miroir. Je ne sais pas à quel âge vous avez fait ça. Hein, vous avez découvert ça, un petit miroir. On le met devant le soleil. Et puis là, on joue, on va éclairer papa et maman. On va lui mettre le miroir dans les yeux. Vous avez déjà un? Oui, à vos sourires, vous avez tous fait ça. Bien, peut-être pas, je ne sais pas. Hein, mais prendre un miroir et puis, avec ce miroir, réfléchir la lumière. C'est le sens premier de la réflexion. C'est le sens premier, c'est réfléchir, c'est finalement renvoyer la lumière. Alors, on le fait bien sûr au travers d'un miroir ou d'autres objets, mais le sens premier de la réflexion, c'est de renvoyer la lumière. Il faut un réflecteur. Et donc, pour renvoyer la lumière, il faut deux choses. Il faut une source de lumière et puis il faut un réflecteur. Renvoyer la lumière de Jésus. Ça, c'est notre, on va dire, le sens de notre vie en premier, c'est renvoyer la lumière de Jésus. Depuis le moment où on a commencé à connaître Jésus, ou plutôt il s'est fait connaître à nous, eh bien, nous sommes devenus des réflecteurs. Il y a quelque chose qui a changé en nous. Désormais, nous sommes des gens, des personnes qui reflétons la lumière de Jésus. Alors, bien entendu, nous ne sommes pas la source de la lumière ce matin. La source de la lumière, c'est Jésus qui a dit « Je suis la lumière du monde », mais il a dit aussi « Vous êtes la lumière du monde ». Dans ce sens où vous allez réfléchir ma lumière. Vous allez réfléchir, eh bien, ce que je vous partage, ce que je vous propose. Et ainsi, nous sommes appelés ce matin à bien nous orienter pour, autour de nous, réfléchir la lumière de Jésus dans les coins les plus sombres, non seulement dans nos propres vies, mais également peut-être dans la vie de bien-aimés qui sont autour de nous, de nos familles, éclairer leur situation. C'est ça, finalement. Dernièrement, on a visité un château. Et dans la chambre d'une dame, il y avait un superbe lustre. Voilà, un lustre qui brillait de ses mille feux. Hein. Donc, je pense qu'à l'époque, c'était encore avec des espèces de bougies. Enfin, un lustre magnifique. Mais, cette coquette dame, pour avoir encore plus de lumière, avait fait monter dans les quatre coins de sa pièce, de sa chambre, des miroirs. Afin que ces miroirs reflètent un peu plus la lumière dans les coins un peu plus sombres. C'est extraordinaire. Elle multipliait ainsi la capacité de ce lustre, qui était déjà magnifique, pour refléter davantage encore la lumière dans les coins sombres de sa chambre. Et cette chambre devenait lumineuse, extraordinaire, parce que simplement, elle avait ajouté des miroirs bien orientés qui éclairaient encore quelques coins de sa chambre qui n'étaient pas éclairés d'une manière correcte. On se souvient de Moïse. Vous vous souvenez de Moïse, hein, de quelle manière il va redescendre de la montagne. 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. Et quand il redescend, la Bible nous dit qu'il ne savait pas que sa peau rayonnait. Il ne savait pas. Et finalement, c'est certainement en voyant la réaction des autres qu'il a été obligé de mettre un voile devant son visage, bien sûr, pour ne pas éblouir et continuer bien sûr à partager avec les autres la parole du Seigneur. La qualité de la surface réfléchissante est importante. Plus cette qualité va être propre, va être sans défaut, plus on va réfléchir la lumière de Jésus. On a des miroirs aujourd'hui qui sont extraordinaires, hein. C'est vraiment le top des tops pour refléter notre image, mais à l'époque des pharaons, par exemple, ce n'était pas cela. Le miroir n'existe pas. Alors pour se voir, eh bien, on a du métal poli, hein, on a du bronze, qu'on polie, etc., et ça donne une certaine image. On peut encore refléter l'image parfois dans un ruisseau, dans un cours d'eau. Il y a aussi une certaine image qui se dégage. Les fondeurs disaient que l'or qui était en train de bouillir pour enlever les scories devenait pur comme ou l'argent lorsque l'image du fondeur se reflétait parfaitement dans la cuve. Ça voulait dire qu'il n'y avait plus de scories. Ça voulait dire qu'il n'y avait plus d'impureté. Et lorsque le fondeur se voyait dans ce liquide, en effervescence, là, que ce soit de l'or ou de l'argent, eh bien, il pouvait considérer que l'or, que l'argent était purifié, parce que son reflet se voyait d'une manière parfaite dans ce métal en fusion. Alors, ce matin, il y a une bonne nouvelle pour nous. Le Seigneur est celui qui veut nous aider à nous purifier, à nous sanctifier. Et le message de Jérémie est intéressant dans ce sens, parce qu'il va le faire d'une manière personnelle pour chacun d'entre nous. Ce qu'il a demandé à Jérémie lui est propre, dans le timing, dans ce qu'il est, dans ce qu'il vit. Il demandera certainement d'autres choses un peu plus tard, mais comme il le fait aussi pour chacun d'entre nous, comme il le fait pour chacun d'entre nous, à des moments particuliers où le Seigneur nous invite à réfléchir, et on va parler ensuite un petit peu, aller plus loin, mais que ma réflexion soit la plus nette possible, la plus propre possible, qu'il y ait de moins en moins de scories, que le miroir, hein, parfois les miroirs sont tachés, etc., eh bien qu'il y ait de moins en moins de taches pour réfléchir réellement la lumière de Jésus. Et puis, une autre condition pour que la réflexion soit optimum, il faut que le miroir soit bien orienté. Il faut qu'il soit face au soleil. Et ensuite, bien sûr, qu'il s'incline. Mais si le miroir est dos au soleil, vous n'allez jamais rien réfléchir. Et ça nous parle de la conversion. Hein. Littéralement, vous savez, la conversion, c'est un demi-tour. Avant, je tournais le dos au Seigneur. Et donc là, excusez-moi l'expression, il faisait ce qu'il voulait. Moi, je faisais ce que je voulais. Mais à partir du moment où je me suis tourné, c'est la conversion, c'est un demi-tour, eh bien, je suis face à face avec lui. Et là, désormais, eh bien, le miroir que je suis va être bien orienté pour pouvoir réfléchir à la lumière dans les coins de mon cœur qui sont encore un petit peu enténébrés, et puis aussi aider ceux qui sont autour de moi à voir la lumière de Jésus-Christ. Être bien orienté. C'est une question là aussi pour nous ce matin d'important. Comment être bien orienté avec le Seigneur? Bien comme Moïse, chercher davantage des face-à-face avec lui, des communions avec lui, des temps de connexion, des temps de communication avec lui en étant. Hein, parfois, bon, ça existe de moins en moins avec la 5G, voire peut-être la 6G, mais au début, avec nos appareils, on cherchait un petit peu la connexion, vous vous rappelez hein, peut-être. Hein. Alors on était en colo. On a une colonie où c'est pas mal aussi parce que dans la colo, il n'y a pas de portable. Je veux dire, il n'y a pas de réception. Alors, les ados, hein, surtout les ados, alors là, ils sont mal. Hein, quand il n'y a pas une réception avec leur portable, c'est la catastrophe. Alors, de temps en temps, on les voit sortir un petit peu, là, et puis ils vont au bout de la colo, et puis là, je ne sais pas, dans un endroit, il y a peut-être un mètre carré, on les voit qui sont sur la pointe des pieds, en train de tourner un petit peu, savoir où est la connexion. Où est la connexion. Pour nous, la connexion, c'est dans un face-à-face avec Jésus. Un face-à-face avec Dieu. Et c'est là que, comme Moïse, je vais être éclairé. Et parfois, on ne s'en rend même pas compte. Quand on redescend d'un temps sur la montagne, c'est une image, bien sûr, d'un face-à-face avec Dieu, et qu'on part au boulot le matin, ou qu'on revient le soir chez soi, ou que le week-end, on attaque un week-end, parce qu'on a eu un face-à-face avec Dieu, on ne s'en rend pas toujours compte. Mais il y a quelque chose qui transparaît, il y a quelque chose qui se transmet, il y a quelque chose qu'on communique, il y a quelque chose qu'on véhicule. Que ce soit avec ou sans parole, peu importe, on s'en moque. L'important, c'est à ce moment-là, parce qu'on a eu un face-à-face avec Dieu, Eh bien, c'est de refléter, réfléchir la lumière de Dieu, la lumière de Jésus. Et les gens peuvent être parfois surpris, les gens peuvent être parfois étonnés. Ils ne nous le diront pas toujours en face, certainement. Mais en tout cas, ils vont être marqués. Parce que quelque chose sera passé, parce qu'on aura eu un face-à-face avec Dieu, parce qu'on aura été des instruments de réflexion. Le deuxième sens, alors celui qu'on connaît le plus, hein, mais qui découle du premier, eh bien, c'est ce qui caractérise la réflexion, le fait d'utiliser son raisonnement, son intelligence, ses dons, ses capacités d'analyse, hein, bien sûr, eh bien pour réfléchir. C'est ça la réflexion. On prend quelque chose que Dieu a mis en nous et puis on va réfléchir. Alors l'analyse, l'intelligence, etc., etc. Le psaume 73, verset 6. Et là, je parle dans le domaine intellectuel, mais je parle aussi dans le domaine spirituel, une réflexion spirituelle. Le psaume 73, verset 16. Vous connaissez ce passage, parce que nous aussi, on y réfléchit de temps en temps. Hein. On se dit, mais pourquoi l'injustice? Pourquoi les méchants triomphent? Pourquoi y a-t-il tant de malheurs, etc.? Et ici, le psalmiste dit, quand j'ai réfléchi pour comprendre tout cela, la difficulté a été grande à mes yeux. Le psalmiste ne comprend pas que Dieu puisse permettre que le méchant parfois triomphe, qu'il y ait de l'injustice, qu'il y ait des drames, qu'il y ait des informations encore comme cette semaine qui nous blessent, qui nous attristent quand on entend certaines informations au quotidien. Je dis, mais Seigneur, mais comment c'est encore possible? Et ici, bien, le psalmiste, il réfléchit, il dit, mais la réflexion, elle est tellement grande, il ne comprend pas, mais il dit ensuite ceci, donc pour continuer au verset 16, il dit ceci, jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu, où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Juste au moment où j'ai fléchi les genoux devant Dieu. Jusqu'au moment où j'ai fléchi ma pensée à celle de Dieu. Juste au moment où j'ai infléchi ma pensée à celle de Dieu. La réflexion du psalmiste ici va le conduire à fléchir, à reconnaître que Dieu est tout-puissant, qu'il a toute autorité et qu'il aura toujours le dernier mot. Juste une remarque, je crois qu'elle est importante également ce matin pour nous. On n'a pas tous les mêmes capacités de réflexion intellectuelle. On est bien d'accord. C'est propre à chacun d'entre nous. Il y en a, ce sont des cerveaux à 10 étages. Vous leur dites un truc, hop, et en 5 minutes, ils vous donnent la solution. C'est extraordinaire. C'est pire que des ordinateurs. Et puis d'autres, bah oui, c'est un peu plus lent, c'est un peu plus compliqué. Il y a d'autres chemins pour arriver des fois à une solution qui nous étonne. Bon, on est tous différents. Je parle intellectuellement. Mais ce matin, que personne, je veux dire ça comme ça, ne se minimise en disant, ben moi Seigneur, tu vois, j'ai pas un cerveau à 3 étages. Quand il est question de réflexion, qu'elle soit intellectuelle ou spirituelle, nous avons ce matin avec nous le Saint-Esprit qui nous a été donné pour nous éclairer. Amen. Et même si je n'ai pas fait de grandes études, d'ailleurs, vous savez, on pourrait parler longtemps, hein, c'est juste une parenthèse entre la différence entre être intelligent et être instruit. Il y a une grande différence. Hein. Parfois, il y en a qui sont intelligents, qui ne sont pas instruits. Hein. Il y en a qui sont instruits, qui ne sont pas intelligents. Il y en a qui sont ni l'un ni l'autre, et il y en a qui sont les deux. Mais ça, ce n'est pas le problème. Si j'ai une ingénieuse avec moi, hein, ou d'autres ingénieuses, mais parfois, alors excuse-moi Manette, hein, mais ça peut se vérifier dans les deux sens. Il y en a qui sont dit ingénieurs, mais pas ingénieuses. Hein. C'est-à-dire que des fois, les ingénieurs nous pondent des trucs comme ça, mais quand il faut, dans la pratique, parfois les ingénieurs, allez, on ne va pas prendre les ingénieurs, hein, les ingénieurs de chez Renault, hein, quand ils vous pondent un bon moteur, avec une belle voiture, et puis que quand pour changer simplement une ampoule, hein, il faut démonter le pare-choc, il faut démonter, etc. Je dis quand même, l'ingénieur à ce moment-là n'a pas été tellement ingénieux. Mais ce que je veux dire, qu'on soit ingénieur, et on bénit Dieu maintenant pour les cerveaux à 4 étages, à 5, il en faut. Il nous faut des hommes et des femmes qui ont un cerveau et qui réfléchissent très très vite, il nous le faut. Mais ce que je veux dire ce matin, quelle que soit notre capacité de réflexion intellectuelle, ce n'est pas ça l'obstacle. c'est pas ça l'obstacle. Ou j'allais dire, eh bien, pour nous peut-être certaines choses, le plus important, c'est que nous soyons en tant qu'enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit. Et Dieu sera capable, avec quelqu'un qui n'a pas une grande réflexion, eh bien, d'apporter des solutions extraordinaires. C'est pas un problème pour Dieu. C'est pas un problème pour Dieu. Ici, moi, je parle d'une réflexion spirituelle, d'une réflexion qui va nous aider à analyser, à réfléchir et à se placer devant Dieu. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous. Amen. Dieu est grand et il veut ce matin, quel que soit notre degré, notre QI, voilà. Ou il y a d'autres critères maintenant. On est comme on est, hein. On n'a pas à se complexer, on peut tous faire des progrès. Il n'y a aucun souci, mais le Saint-Esprit est là aussi pour nous éclairer, pour nous encourager et pour nous aider à réfléchir. Alors, il y a quelques exemples dans quel domaine le Seigneur nous demande d'avoir de la réflexion. Eh bien, le psaume 119, verset 59, nous dit ceci. Psaume 119, verset 59, nous dit ceci. Psaume 119, 59. Je réfléchis à mes voies et je conduis mes pas vers tes instructions. On est tous appelés à faire de temps en temps des bilans personnels, des mises au point, des arrêts sur image. Ce sont des étapes essentielles, incontournables pour progresser, pour aller de l'avant. Je ne sais pas si vous êtes un sportif accompli, si vous êtes un alpiniste accompli, mais on ne gravit pas l'Everest, vous le savez, en short et en basket. En disant, tiens, hop, cet après-midi, je vais monter à l'Everest comme ça, on va voir ce que ça donne par une belle journée ensoleillée. Je ne pense pas. Ce sont des mois, voire des années de préparation, de logistique, d'entraînement, et puis on forme des équipes. Et même s'il n'y en a qu'un ou deux qui réussissent à gravir le sommet, on établit des camps de base, etc. Ça dure des mois et des mois. Et puis on réfléchit, on analyse étape après étape. Et dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Le Seigneur nous demande parfois de réfléchir sur nos voies, de s'arrêter, de penser, de revenir, de dire « Seigneur, où est-ce que j'en suis ? Dans quel domaine ? Etc. Pourquoi là je suis arrêté ? Pourquoi là j'ai pu progresser ?» Ce sont des étapes importantes qui vont nous permettre eh bien, de prendre du temps et ensuite de repartir de plus belle. Je réfléchis sur mes voies, sur mes voies. Parfois, nous, on aime bien réfléchir sur les voies des autres, hein, sur les voies des frères et sœurs. Bon, c'est tellement plus facile, mais le Seigneur me dit, réfléchis d'abord sur tes voies. Puis après, si tu as un peu de temps, tu réfléchiras sur la voie des autres. Hein, mais que chacun réfléchisse sur ses voies. Psaume 139, verset 23, nous dit ceci. Le psaume 139, c'est le complément, c'est notre texte de départ. Mais psaume 139, verset 23, nous dit, examine-moi, ô Dieu, connais mon cœur, mets-moi à l'épreuve, connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Où est-ce que j'en suis dans ma vie aujourd'hui ? Sur quelle sorte de chemin est-ce que je suis ? Est-ce que ça monte ? Est-ce que ça descend ? C'est un chemin qui est large, est-ce qu'il est petit, il est rocailleux ? Y a-t-il des panneaux indicateurs, des sens interdits, des voies uniques, des limitations de vitesse, de tonnage ? Je ne sais pas. Hein, si on fait un parallèle avec le code de la route, y a-t-il des signaux que Dieu me donne ? Tout cela est une prise en compte, en tout cas, pour nous aider à reconnaître Dieu dans mes voies. Dis, Seigneur, eh bien, montre-moi et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je réfléchis à mes voies. Le psaume 143, verset 5, nous parle d'une autre réflexion. 143, verset 5, nous dit ceci. Je me souviens des jours passés, je pense à toute ton activité, je réfléchis au travail de tes mains, je soupire après toi comme une terre desséchée. Ici, David se concentre maintenant sur l'œuvre de Dieu. Il ne réfléchit pas simplement sur ses œuvres à lui, mais il réfléchit sur les œuvres de Dieu. Il s'en préoccupe, il recherche la volonté de Dieu, il veut la connaître, il veut la comprendre, il veut l'accomplir. Et c'est un équilibre, là aussi, que Dieu nous montre ce matin, réfléchir à nos voies de manière personnelle, mais réfléchir également aux voies de Dieu, à son œuvre, à ce qu'il veut, à ce qu'il désire pour chacun d'entre nous. Hein, vous connaissez bien ce passage de Jésus, Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses dont vous avez besoin vous seront données par-dessus. Je crois qu'il ne faut pas oublier cette partie aussi de nos vies, de rechercher également les voies de Dieu, sa volonté. Réfléchir à tes voies, Seigneur. Montre-moi. Dans quelles circonstances on est appelé à réfléchir? Vous connaissez ce passage, Ecclésiaste 7, 14. Au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis. Au jour du malheur, réfléchis. Les épreuves dans nos vies doivent aussi nous conduire dans la réflexion. Non seulement pour savoir, bien sûr, pourquoi, si des fois j'ai les réponses, j'y suis conduit, mais surtout comment, Seigneur, vive ma foi dans l'épreuve, malgré l'épreuve, avec l'épreuve, malgré la souffrance, malgré l'incompréhension. C'est tout l'enseignement de Job. Pas simplement, et je sais qu'on les dit ces questions, elles sont légitimes, mais Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi dans cette épreuve? Et y a le temps du questionnement, et Dieu peut nous répondre comme il ne peut pas nous répondre. Ça, c'est son libre arbitre. Mais surtout que dans ces moments, au jour où je souffre, je puisse dire, Seigneur, eh bien, j'en suis là aujourd'hui, mais aide-moi à vivre ma foi. Comment est-ce que je vais continuer à partager? Comment est-ce que je continue à avoir une relation avec toi quand mon corps souffre, quand mes yeux ne me permettent plus de lire ta parole, quand je deviens un peu plus sourd? Seigneur, quand mon corps défaille, comment, Seigneur, je peux continuer à avoir une relation avec toi? Ce sont les questions qui sont concrètes, mais dans lesquelles le Seigneur veut aussi se glorifier. Et puis un dernier exemple, et ensuite on conclura par cette belle déclaration où on fléchit. Dans Acte 12, 12, hein, vous relirez, c'est le passage où Pierre est délivré par l'ange de cette prison. Un ange lui fait sortir toutes les barrières, il lui dit de s'habiller, et puis quand il se retrouve seul dans la rue, eh bien la Bible nous dit que Pierre va réfléchir. Il dit d'abord qu'il ne savait pas si le secours de l'ange était une vision ou pas, si c'était un rêve ou pas. Il ne sait pas. Mais quand il se retrouve seul dans la rue ou dans la prison, quand il se passe un peu, moi j'aime bien ce texte. Il est très. On pourrait le mettre en scène, hein, on pourrait en faire un film. Et là, Pierre, il réfléchit, il dit mais quel jour on est? Il dit ah, c'est mardi. Mardi 19h30, c'est la réunion de prière dans la cellule Intel. Et donc, il se dirige dans cette cellule de prière, et là, il frappe. Et là, vous savez ce qui se passe, c'est extraordinaire. Hein. Ils sont en train de prier pour Pierre, pour qu'il soit libéré. Et quand la servante voit Pierre, elle court, elle va hurler, c'est un fantôme! C'est son fantôme. Je veux dire, on est comme ça, nous. Hein. On prie parfois, puis on dit, Seigneur, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire ici, la leçon, c'est que malgré la délivrance de Dieu de manière extraordinaire avec un ange, ça ne va pas empêcher Pierre de réfléchir. Méfiez-vous, frères et sœurs, des chrétiens super spirituels qui ont des visions de Dieu comme moi, je ne sais pas quoi, mais qui en ont jour et nuit, etc., et qui ne réfléchissent jamais. Dieu m'a dit que, ouais, sauf qu'ils se retrouvent parfois dans des situations complètement déséquilibrés parce qu'ils ont oublié la réflexion, parce qu'ils ont oublié là aussi de réfléchir sur les voies de Dieu. Dieu ne va pas faire de nous des marionnettes, des robots. Oui, il y a une intervention extraordinaire lorsque Pierre va voir cette révélation de la nappe par rapport donc à l'évangélisation des païens. Il nous est dit aussi qu'il réfléchissait sur la vision. Ce n'est pas un manque de foi de réfléchir sur une vision que Dieu nous donne. On peut demander des compléments. On peut dire, Seigneur, je n'ai pas tout compris. Ou est-ce que j'ai bien compris ce que tu veux me dire? Et comment, Seigneur, je vais pouvoir mettre en place cette vision? Comment est-ce que je pourrais être orienté? Tout ça, ça fait partie aussi de ce que Dieu... Autrement, Dieu nous aurait fait une case en moins. Hein. Il nous aurait dit, écoutez, non, ce n'est pas la peine que l'homme réfléchisse. Voilà, je lui dis ce qu'il faut faire et puis il y va. Non, Pierre a réfléchi. Alors on conclut... maintenant, réfléchir finalement va nous pousser à fléchir les genoux devant Dieu. Je crois que c'est important. Le psaume 77 nous le rappelle. Asaph, bien oui, il vit son épreuve, c'est une réalité, mais dans cette réflexion, eh bien, va le pousser à fléchir les genoux devant Dieu. Nos réflexions, même dans nos temps d'épreuve, de souffrance, d'incompréhension, ne doivent pas nous conduire dans la nostalgie, dans la frustration, dans le scepticisme, dans la résignation. Mais cette réflexion doit nous conduire au contraire à fléchir. Et je peux fléchir les genoux devant Dieu ce matin en disant, Seigneur, je ne comprends pas ce que je vis, mais je fléchis les genoux devant toi. Seigneur, c'est dur pour moi, mais je fléchis les genoux devant toi. Je ne veux pas me révolter. Seigneur, ce que je vis m'effraie, j'en ai peur, mais je te le confesse et je fléchis les genoux devant toi. Et à chaque fois, finalement, bien, je vais me retrouver face à face devant mon Dieu pour le bénir, pour lui rendre toute la gloire et ainsi lui accorder ce dont il a besoin dans la mesure où Dieu a toujours besoin de notre louange, de notre adoration. Dieu se réjouit quand il est honoré. Et en cela, bien, ce matin, nous pouvons l'honorer. Je conclue avec Éphésiens 3:8. Vous le connaissez, c'est Paul qui parle justement encore de cette réflexion, de cette réalité. Et il exprime ainsi, il dit, bien, moi je suis le plus petit de tous les saints. C'est ce que Paul dit. Il dit ceci, hein, et il va réfléchir à la manière dont Dieu l'a appelé. Il va réfléchir, lui le persécuteur, il va réfléchir dans sa vie, combien de fois, Seigneur, mais pourquoi moi? Et voilà ce qu'il va dire dans sa réflexion. Éphésiens 3:8, il va dire ceci. Éphésiens 3:8, moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ, de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu, qui a tout créé par Jésus-Christ. Ainsi, les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est en Christ, par la foi en lui, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Voilà, et ici Paul confesse, réalise finalement dans sa réflexion spirituelle que Dieu lui a vraiment fait grâce. C'était un persécuteur, il a du sang certainement sur les mains. Il y a des chrétiens qui sont morts à cause de lui. Et Dieu le sauve et Dieu s'en sert pour être un instrument entre ses mains. Alors il réfléchit et se dit, c'est vrai Seigneur, je suis le plus petit. Mais regardez à quoi cette réflexion va le conduire. Il va dire ceci, voilà pourquoi je plie, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Amen. Oui, toute cette réflexion va pousser l'apôtre Paul à fléchir les genoux devant Dieu et dans tout son ministère. Hein, on voit Paul qui pourra dire finalement, et je crois que ce matin, bien, cette réflexion, ce fléchissement peut nous conduire à de telles paroles pour nous. Finalement, Seigneur, eh bien, j'ai appris à me contenter de ce que je vis. J'ai appris le contentement dans tout ce que je vis, dans tout ce que je suis. Et en tout ce que je suis, bien, je te rends grâce et je fléchis devant toi. Amen. Alors ce matin, vous m'avez bien compris, cette réflexion, c'est la capacité d'abord et avant tout, eh bien, de renvoyer la lumière de Jésus-Christ. Et cela, c'est pour chacun d'entre nous. Et quel que soit notre niveau de réflexion, parce que nous ne sommes pas tous égaux devant la réflexion, sachant que le Saint-Esprit qui est en nous saura toujours nous conduire dans la meilleure réflexion. Amen. Intellectuelle, spirituelle, pour nous donner en son temps les capacités dont nous avons besoin. Pourquoi ? Eh bien, pour fléchir les genoux devant notre Père Céleste. De ne pas rester dans la frustration, dans l'aigreur, dans l'amertume, dans la nostalgie, mais au contraire, dans cette vérité, Seigneur, merci pour ta parole. Amen. Te bénissons, Seigneur, ce matin encore pour ta parole. Oui, sommes heureux de ce que tu nous permets de réfléchir, la lumière qui est en Jésus-Christ. Te prions pour que chacun d'entre nous, ce matin, soyons des miroirs bien orientés, dans des face-à-face fructueux avec notre Père Céleste. C'est en effet dans ces face-à-face personnels que notre miroir sera bien orienté pour qu'il puisse ensuite éclairer des parties encore, des zones d'ombre de nos cœurs, mais également témoigner de ton amour autour de nous. Je te prie pour chacune de mes sœurs, pour chacun de mes frères, afin que tu les aides ce matin à avoir une réflexion saine, objective, sur leur voix, sur nos voix, sur les tiennes, et Seigneur, en toutes quatre causes, eh bien, fléchir les genoux devant toi. Merci. Merci pour ta parole. Que ces temps de Sainte-Seine nous aident à nous rapprocher de toi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et je pourrais demander peut-être à Christian, oui, je vais demander aussi à Étienne et puis à notre frère Morgane. Voilà, si, oui, il est encore là, oui, Morgane, merci. Hein, de bien vouloir vous approcher de la Sainte-Seine. Et puis on va demander au Seigneur qu'il nous bénisse ce matin. Et que chacun d'entre nous puissions dire, Seigneur, c'est vrai, peut-être que le miroir que je suis est un peu terni. Alors, viens purifier mon cœur. Et il le fera. Viens me montrer afin que mon miroir soit bien orienté et que je puisse encore réfléchir de ta gloire. Amen. Est-ce qu'un frère...